tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal et ce thermomètre qui monte et on n'a encore rien vu, semble-t-il. Ça va encore grimper jusqu'à la fin de la semaine au moins. Du coup, le ministre de l'Éducation décide de reporter le brevet à la semaine prochaine, c'est une première. Tout le gouvernement est mobilisé pour éviter l'hécatombe de la canicule de 2003, en particulier dans les EHPAD. Des mesures annoncées également aujourd'hui contre la pollution. On verra ça dans le détail et ne manquez pas bien sûr les prévisions complètes d'Elena Morna à la fin de ce journal. Que s'est-il passé à Nantes le soir de la fête de la musique? Les forces de l'ordre ont chargé, 14 personnes sont tombées dans la Loire. L'une d'elles est portée disparue. L'affaire Vincent Lambert, le sort du tétraplégique désormais suspendu à une décision de la Cour de cassation. On parlera aussi de Michael Jackson, 10 ans qu'il est mort, 10 ans que son médecin est pointé du doigt. Et puis les Bleus connaissent leurs adversaires pour les quarts de finale du Mondial. Ce sera vendredi et ce sera à vivre, bien sûr, en direct sur Europe 1. Sans surprise, avec les Américaines, ou plutôt contre les Américaines. La surprise, c'est que les Espagnols, eh bien, leur ont donné du fil à retordre. Comme chaque soir, 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur des opérations de Mondial Assistance, Pascal Fanton. Et on parlera aussi avec lui de cette canicule qui fait souffrir les humains, mais aussi les voitures.
Europe 1.
Et la réponse du gouvernement donc à l'épisode de canicule, alors que 53 départements, je vous le disais, sont placés en vigilance orange par Météo France, les ministres sont sur tous les fronts. Pollution, hôpitaux, écoles, maisons de retraite, accueil des SDF, activités sportives, le gouvernement veut rassurer et éviter bien sûr l'hécatombe de la canicule de 2003 et ses 15 000 morts. Avec une première conséquence concrète, donc le brevet des collèges prévu théoriquement ce jeudi et vendredi est reporté en début de semaine prochaine en métropole, c'est inédit. Les épreuves auront lieu lundi et mardi. Le ministre de l'Éducation ne veut pas laisser des élèves plancher plusieurs heures dans des salles surchauffées.
En raison de la canicule, nous sommes amenés évidemment à prendre des mesures d'exception pour tenir compte tout simplement de la santé, de la sécurité et du bien-être des élèves et des personnels. Et s'agissant du brevet, j'ai dû prendre la décision donc d'un report. Il devait avoir lieu en France métropolitaine jeudi et vendredi prochain. J'ai donc décidé pour la France métropolitaine de le reporter à lundi et mardi prochain. Et il est vrai que le bâti scolaire n'est pas homogène et qu'il y a des bâtiments dans lesquels les élèves pourront travailler à peu près normalement et d'autres pour lesquels ce sera plus difficile. Et donc pour des questions d'égalité et puis pour des questions tout simplement de bon déroulement des épreuves, il est paru raisonnable de reporter à lundi et mardi prochain.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avec Virginie Salmen. Sage décision, dit Hubert Salahin, le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves.
Le report du brevet, c'est une bonne chose dans la mesure où les épreuves ne pouvaient pas se tenir dans les conditions normales par 40 degrés, hein, avec des questions de sécurité au niveau des élèves. Voilà. Donc le brevet, en plus, n'est pas un examen absolument essentiel. Donc le repousser de quelques jours nous semble très raisonnable. Ça va poser des contraintes au niveau de la communauté éducative, mais l'intérêt des enfants s'impose dans cette situation. Pour les familles qui seront dans une situation complexe, qui doivent partir dimanche ou ce week-end, il y a de toute façon une épreuve de report du brevet qui est prévue mi-septembre. Donc l'éducation nationale sait le faire, on a confiance.
Hubert Salahin de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, joint pour Europe 1 par Ève Roger. Le brevet reporté donc en métropole. Concernant les conditions d'accueil avec cette canicule dans les écoles maternelles, dans les primaires, les collèges et les lycées où il y a encore cours, des décisions d'éventuelles fermetures seront prises au cas par cas en fonction essentiellement des locaux et de leur isolation. Et les parents seront prévenus dans les prochaines 48 heures. Le Conseil des ministres, avancé à demain, fera le point sur les mesures prises face à cette semaine exceptionnelle. Côté météo, depuis Marseille aujourd'hui, Emmanuel Macron a confirmé que tout le gouvernement était mobilisé, que cette canicule était prévue et anticipée, avec bien sûr des priorités. On pense forcément à nos aînés qui ont tendance à se déshydrater beaucoup plus vite. Les établissements qui accueillent des personnes âgées se sont préparés, comme cette maison de soins à Paris. Myriam est responsable logistique et depuis ce matin, elle veille à ce que les résidents n'attrapent pas un coup de chaud.
C'est suffocant pour eux, c'est difficile, ils vont beaucoup plus lentement, ils peuvent avoir des étourdissements, des choses comme ça. Donc effectivement, oui, c'est très compliqué à vivre pour eux. Chaque membre de l'équipe va avoir des tranches horaires dans lesquelles ils vont penser à proposer des verres d'eau, donc trois petits verres d'eau par heure, avec un relais pour pas qu'il y ait d'oubli ou de choses comme ça. On ferme les volets, on n'allume pas la lumière, de telle sorte que la pièce reste fraîche le plus longtemps possible. Donc ça passe par des petits gestes simples comme ça.
la responsable logistique d'un EHPAD du 16e arrondissement de Paris. Elle était au micro Europe 1 de Chanel Petit. Et puis avec ces fortes chaleurs, il faut également se préparer à l'arrivée de la pollution. Deux départements sont déjà en alerte orange, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans la capitale, le ministre de la Transition énergétique annonce la mise en place d'un nouveau dispositif totalement automatisé et donc simplifié lors d'Autriche.
Oui, quand on dépassera finalement un certain seuil de pollution, sans avoir à en référer à la préfecture, automatiquement, il y aura ce qu'on appelle la circulation différenciée qui sera déclenchée. Alors, ça concerne la pollution aux particules fines et seuls les véhicules ayant une vignette numérotée de 0 à 2 pourront rouler, alors que jusqu'ici, les voitures avec une vignette critère 3 pouvaient également circuler. C'est effectivement ce qu'a annoncé le ministre de l'écologie, François de Rugy. Alors, pour l'instant, ça concerne Paris, mais à l'avenir, ça pourrait être étendu aussi à d'autres villes, si le système fonctionne bien. Alors, quand on dit que le seuil est atteint, c'est qu'on dépasse une concentration de particules fines de 80 microgrammes par mètre cube d'air sur 24 heures et au moins 50 microgrammes lorsque ça dure au moins 2 jours. Alors, ça arrive en général plusieurs fois dans l'année. C'est ce qu'explique Charlotte Songeur, ingénieure à Air Parif, l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France.
Suivant les polluants, on va avoir des seuils différents. Le 80 microgrammes, c'est pour les particules et c'est généralement des épisodes qu'on va avoir à l'hiver ou au printemps. Ce qu'il faut comprendre aussi avec ces polluants, c'est que quand on est en persistance, c'est-à-dire 2 jours d'affilée de pollution, on passe en seuil d'alerte et donc les mesures d'urgence peuvent s'appliquer.
Alors, un mot enfin concernant cette semaine de canicule. Ce qui menace, comme souvent l'été, ce ne sont pas des pics de particules fines, mais la pollution à l'ozone. C'est cette pollution qui est surveillée par les experts. Aujourd'hui, les seuils d'alerte à l'ozone ne sont pas encore dépassés, mais ça pourrait être le cas en milieu de semaine. Pour fabriquer de l'ozone, il faut notamment du soleil et de la chaleur. Et aujourd'hui, les nuages, notamment en région parisienne, ont limité la fabrication d'ozone.
Les précisions de Laure d'Autriche pour Europe 1.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h07 et on reparle ce soir sur Europe 1 de l'affaire Vincent Lambert. Nouvel épisode, a priori, ce devrait être le dernier, théoriquement en tout cas, la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, doit se prononcer vendredi après avoir examiné la décision de la Cour d'appel de Paris. Cette dernière, on s'en souvient, avait ordonné à la surprise générale la reprise des traitements qui maintiennent en vie le tétraplégique. Incompréhensible pour maître Patrick Spinozzi, il est l'avocat de Rachel, l'épouse de Vincent Lambert.
C'est un véritable coup de force juridique qu'a commis la Cour d'appel. Elle n'avait aucun droit de statuer, elle se l'est arrogée. Les juges ont ici fait montre plus de passion que de raison et je pense que la Cour de cassation viendra dire clairement où se situe le droit et remettre la légitimité des décisions qui ont déjà été rendu depuis 4 ans dans ce dossier. La Cour de cassation mettra définitivement fin à ce litige et la décision d'arrêt de soins de l'équipe médicale pourra alors être exécutée comme elle aurait déjà dû l'être sans cette décision anormale de la part de la Cour d'appel de Paris qui n'avait absolument aucun droit d'interrompre les soins.
Maître Spinozzi, l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert. Évidemment, les parents, eux, ont mis beaucoup d'espoir dans cette énième décision de justice. Vous savez qu'ils veulent à tout prix maintenir leur fils en vie. Et leur avocat, maître Jérôme Triomphe, reste confiant.
Écoutez, évidemment que nous sommes confiants. Je vous rappelle que quand nous sommes allés plaider à la Cour d'appel de Paris le 20 mai, Vincent avait été sédaté et le processus de mort avait été engagé. Et le soir même, il était sauvé. Donc évidemment que nous sommes confiants. Le juge judiciaire a su se montrer être le dernier rempart contre l'arbitraire, ici étatique, ici médical, et évidemment que nous attendons avec confiance. La question qui se pose, c'est la question de savoir pour quel motif y a-t-il une urgence à provoquer la mort de Vincent Lambert. Quel est ce pays dans lequel un État, tout un appareil d'État, avec toute la puissance qui est la sienne, s'acharne sur un homme à vouloir le faire mourir.
L'un des avocats des parents de Vincent Lambert, maître Jérôme Triomphe. Et dans un instant, ce sera à la suite de votre journal sur Europe 1. Que s'est-il passé à Nantes le soir de la fête de la musique? 14 personnes sont tombées à l'eau. Un jeune homme est porté disparu. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'au 30 juin, devinez ce qui se passe chez Seat. Ce sont les ventes privées. Inutile de vous expliquer ce que sont les ventes privées Seat. Des véhicules neufs avec des remises exceptionnelles allant jusqu'à 20%, vous le savez déjà. Mais que ces véhicules soient disponibles sous 72 heures, oui, 3 jours, c'est ça. Forcément, vous voilà tout ébobie. Alors dès que vous aurez recouvré vos esprits, inscrivez-vous vite sur seat.fr.
Offre aux particuliers pour toute commande d'un véhicule disponible sur le site des ventes privées Seat avant le 30 juin, selon stock. Inscription et conditions sur seat.fr.
Oh, la belle vie.
Mais comment tu fais pour être aussi viré?
On dirait que tu n'as plus aucun souci.
Écoute, depuis que j'ai vendu en viager avec René Coste, j'ai la belle vie. J'ai doublé ma retraite. Et Nicole est protégée s'il m'arrivait quelque chose.
Doubler ta retraite?
Eh oui. Demande une étude gratuite et personnalisée au 0800 900 60 900.
Attends, je note. René Coste Viager, 0800 960 900.
Et l'appel est gratuit. René Coste Viager, le numéro 1 du viager en France.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal et une enquête de l'IGPN, la police des polices, est ouverte à Nantes après la disparition d'un jeune homme, vraisemblablement lors de la fête de la musique vendredi. Il participait à une soirée électro sur les quais de la Loire, soirée qui a dégénéré aux alentours de 4h30. Les forces de l'ordre ont chargé, fait usage de gaz lacrymogène. 14 personnes sont tombées dans la Loire et l'une d'elles est donc toujours portée disparue. Écoutez le reportage sur place de François Coulon, le correspondant d'Europe 1.
Beaucoup d'amis de Steve l'ont croisé au cours de cette fête de la musique. Le jeune homme était manifestement très fatigué vers 4 heures du matin. Il se serait endormi non loin de la Loire, peu avant l'intervention des forces de l'ordre. Tout est parti d'un dépassement horaire. La musique devait s'arrêter impérativement à 4 heures du matin. Mais une demi-heure plus tard, un DJ continuait à faire tourner ses platines de musique électro. L'intervention des policiers aurait été accueillie par des projectiles, disent les autorités, d'où la riposte à coups de lacrymogène et de grenades de désencerclement, ce qui a créé un gros mouvement de panique. Dans la cohue, 14 jeunes sont tombés dans la Loire. Il n'y avait pas de garde-corps à cet endroit. Ces jeunes ont été secourus par les pompiers et la SNSM présents sur le fleuve. Mais depuis cette nuit très agitée de vendredi, aucune nouvelle de Steve, un éducateur de 24 ans, que ses amis décrivent comme un garçon non belliqueux. Sa maman a officiellement signalé sa disparition hier soir. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire, l'autre administrative, à la demande du ministre de l'Intérieur. Cette enquête va porter sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre. C'est l'IGPN, la police des polices, qui s'en chargera. Nantes, François Coulon, Europe 1.
Le constat de l'INSEE à propos du chômage, l'écart est toujours marqué entre la métropole et l'outre-mer, où le nombre de demandeurs d'emploi est au minimum deux fois plus important et même quasiment multiplié par quatre à Mayotte. Le géant français des services informatiques Capgemini annonce avoir conclu un accord pour racheter le groupe de conseil en technologie Altran, ce qui va donner naissance à un colosse de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran, Washington promet de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires. Plusieurs personnalités seront aussi visées. Le chef de la diplomatie, le guide suprême, des sanctions qui pourraient rester en place des années. C'est ce que dit en tout cas Donald Trump ce soir. L'Iran demande aux États-Unis d'arrêter leur guerre économique. Et en foot, les Bleus affronteront donc les États-Unis en quart de finale du Mondial vendredi au Parc des Princes. Les Américaines ont en effet battu les Espagnols ce soir à Reims, où l'on vous retrouve Cyril de la Morinerie. Cyril, une victoire dans la douleur pour les favorites de cette compétition.
Oui, victoire américaine, mais victoire poussive. Pour la première fois, l'équipe des États-Unis a encaissé un but dans cette compétition. Mais surtout, les redoutables Américaines, championnes du monde en titre, ont connu des difficultés face aux Espagnols. Le premier but a été marqué sur pénalty à la 5e minute par l'équipe américaine. C'est Megan Rapinoe qui a marqué. Égalisation pratiquement dans la foulée à la 9e minute par l'Espagnol Hermosa. Des Espagnols qui ont réussi à tenir le ballon. Finalement, c'est sur un nouveau pénalty et que l'équipe américaine s'en est sortie. La VAR a confirmé ce pénalty des États-Unis et Rapinoe s'est chargé de marquer ce deuxième but américain. C'est donc une équipe américaine moins fringante, si je puis dire, qui va rencontrer l'équipe de France. C'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs pour les Bleus. Ce sera vendredi prochain à 21h au Parc des Princes.
Et sur Europe 1 en direct, évidemment. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1 à Reims, où se jouait donc cette rencontre. Les Bleus, elles sont à Clairefontaine, où elles ont mis en place un entraînement sur mesure afin de ne pas s'épuiser trop à cause de la canicule. Et puis notez qu'en ce moment, la Suède domine 1-0 face au Canada. L'attribution des Jeux Olympiques d'hiver 2026, c'est la candidature italienne de Milan Cortina qui l'emporte aux dépens du dossier suédois. Et puis demain ça fera 10 ans tout juste que disparaissait Michael Jackson. Et on va retrouver Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alors on se souvient que le médecin de Michael Jackson, le docteur Murray, a été rapidement sur la sellette pour avoir administré un produit anesthésiant qui aurait pu tuer la star. Il a été jugé d'ailleurs pour ça. Mais ce soir, Xavier, de nouveaux témoignages accablent encore le médecin.
Oui, c'est des nouveaux témoignages qui sont encore plus accablants pour le docteur Murray. En fait, il s'agit des policiers qui sont entrés les premiers dans la chambre de Michael Jackson. Trois inspecteurs du LAPD, la police de Los Angeles, ils ont été chargés de l'enquête. Ils parlent pour la première fois dans un documentaire britannique intitulé « Killing Michael Jackson », « Tuer Michael Jackson ». Écoutez cet extrait.
Ce n'était pas juste une overdose. On ne l'aidait pas à dormir, on le gardait dans cet état. C'est un homme qui n'aurait pas dû mourir.
Il n'aurait pas dû mourir. Voilà la conviction des trois policiers. Il avait assez de propofol en lui pour tuer un rhinocéros, dit-il. Alors le propofol, c'est ce fameux anesthésiant dont on a beaucoup parlé à l'époque. Il raconte comment le docteur Murray a caché tout son matériel médical dans la maison de la star avant l'arrivée des secours. Et comment ils l'ont découvert? Nous avons trouvé des tas de médicaments, des aiguilles, des bouteilles vides, dit-il. Tout ça aurait dû être dans la chambre, à notre arrivée. Ils ont conclu que le docteur Murray a arrêté le massage cardiaque sur Michael Jackson pour prendre le temps de tout dissimuler. D'ailleurs, l'appel au service d'urgence n'intervient qu'une demi-heure après la découverte de la star inanimée. Et selon ces trois inspecteurs, le docteur Murray aurait dû être condamné pour meurtre. Au lieu de ça, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire en 2011, condamné à 4 ans de prison, dont il est sorti au bout de 2 ans.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et on va jeter un œil sur la météo avec vous, Elena Mornam, et les météos caniculaires, on l'a bien compris. Et pour demain, ce sera un peu plus beau à l'ouest, un peu plus chaud partout, avec désormais 53 départements en alerte orange, Elena.
Et ce n'est, Isabelle, que la deuxième envolée du mercure. La troisième arrive mercredi et s'étendra cette fois aux régions épargnées, celles du nord-ouest ou encore du sud-ouest. C'est une grande partie est jusqu'en Île-de-France, région centre, Limousin, Poitou-Charentes et Tarn qui sont en vigilance canicule demain. D'autres vigilances à venir sur l'ouest pour le milieu de semaine donc. Alors côté ciel, c'est vrai qu'on a eu une bonne chape de nuages aujourd'hui sur la moitié ouest. Elle va se réduire en peau de chagrin demain et se cantonnera l'après-midi aux régions allant de la Charente-Maritime au Nord-Pas-de-Calais. Plus nuageux sur la Bretagne et le Cotentin avec encore un risque d'orage. Ailleurs, c'est bleu et déjà trop chaud avec 30 à 38 degrés entre Angers et Avignon. Il y a quelques valeurs trompeuses comme à Sainte-Maxime par exemple avec 30 degrés alors que 30 km plus loin, dans les terres, on ira jusqu'à 37 à Draguignan comme à Valence et Lyon d'ailleurs. 36 à Strasbourg et Auxerre, 34 à Toulouse et Marseille, 32 à Lille, Paris, Ajaccio, 31 pour Amiens et Bordeaux. On devrait sortir de cette canicule précoce et intense à partir de dimanche.
La météo signée, Elena Mornam. Europe 1.